Chapitre 4. Gustave Mourez habitait Paris depuis un mois, sans avoir trouvé du travail et sans avoir pu s'occuper de l'adresse des Cassagnoles. Il avait vu des compatriotes très bien placés dans des administrations de l'État ou dans des maisons de commerce. Tous lui avaient prodigué les meilleures expressions de bienveillance, mais inutilement. Aujourd'hui, il se rendait à Levallois-Perret, chez un député de son département de l'Hérault, lorsque, dans le tramway de Neuilly, un petit bonhomme presque vieux attira son attention. Quelquefois, en bon méridional qui ne peut garder en soi sa peine, il éprouvait le besoin de s'épancher dans le sein du premier venu. Or, tandis que, de tous les voyageurs, il restait seul un moment avec le vieux bonhomme, Gustave murmura « Quel mauvais temps !»« La pluie est de saison, monsieur, » répliqua son voisin. « S'il ne pleuvait pas maintenant, nous nous plaindrions du manque d'eau en été. »« Je suis tellement habitué à voir du soleil chaque jour. » « En effet, vous venez du midi, n'est-ce pas, monsieur ?» Ils bavardèrent avec une confiance agréable. Le petit vieux, vêtu sans beaucoup de soin, abritait sous la cloche d'un chapeau melon trop large une longue figure osseuse, embroussaillée de cheveux gris-jaune et d'une barbe de même couleur qui se répandait à droite et à gauche en touffes irrégulières. Son nez était mobile et pointu. Derrière les verres d'un lorgnon, des yeux très bleus se cachaient à demi sous de lourdes paupières ou regardaient fixement son interlocuteur. Il se donnait des airs de philosophe humanitaire. Éditeur jadis, il avait, après 20 ans de prospérité, dévoré par un caprice de poète sa fortune dans la création précipitée d'une plage de Bretagne à présent fameuse. Loin de regretter ses spéculations malheureuses, il s'en faisait gloire par orgueil. Il ne subsistait plus que d'une rente mensuelle que lui fournissait son successeur en librairie. Pourtant, il entendait augmenter ses ressources par les gains de sa plume. Déjà, n'avait-il pas publié 2 volumes d'une histoire universelle qui devait en compter 15 ? Cet après-midi, il revenait justement de prendre des notes à la Bibliothèque nationale. Le hasard, Dieu puissant, avait donc conduit Gustave auprès d'un homme généreux, doué de la science des affaires et lié avec le monde de la librairie. Ils se reconnurent bien vite, l'un et l'autre, de la race des poètes. Aussi, pendant que le tramway traversait la place Pereire, Gustave confessa qu'il était venu à Paris faire de la littérature. « Métier difficile, » bourdonna le petit bonhomme. « Je l'ai pratiqué pendant la plus belle saison de ma vie. » « D'ailleurs, vous connaissez mon nom, j'en suis sûr. Albert Rucois, l'éditeur de Victor Hugo, de Michelet. »« Ah oui, monsieur, parfaitement. Que je suis heureux !»« Bien, bien. Je vous affirme que c'est un métier abominable d'écrire des livres et de les offrir en pâture au public. »« Moi, ce qui me préoccupe d'abord, c'est de trouver un emploi qui m'assure le pain quotidien. »« Vous avez 1000 fois raison. » La modestie du jeune homme étonnait favorablement M. Rucois, qui n'avait guère vu, depuis 40 ans, que des écrivains exaspérés de suffisance ou d'envie. Il baissa la tête. Puis, secoué d'une flamme soudaine, il se tourna vers Gustave et lui dit « Vous me plaisez, monsieur. Si vous ne rencontrez pas votre député, montez chez moi en sortant de Levallois. Je ne demeure pas loin. Voici ma carte. » Gustave remercia le vieux maître avec émotion et ajouta « Que je rencontre ou non le député, permettez-moi de monter chez vous tout à l'heure. C'est cela, au revoir. » M. Rucois, lest et guilleré, sauta du tramway qui avait à peine dépassé la porte Champéret. Pour aller à la rue Comaille, qui commence au fossé des fortifications, Gustave descendit à son tour. Il marcha d'un pas rapide, en un frémissement d'allégresse, car M. Rucois lui paraissait le meilleur des hommes, un artiste pittoresque, très confiant d'esprit et de cœur. Chez le député, à la porte d'un jardin, il sonna. Du pavillon au volet vert s'avança une servante grincheuse, habituée à répondre au quémandeur que M. le député était absent et qu'il ne rentrerait pas à la soirée. Gustave repartit à la hâte et bientôt, ayant franchi la porte Champéret, il s'engagea sur la droite dans la courte rue Merlin. Là, au 5e d'une maison neuve, la famille Rucois occupait un appartement de 4 pièces. M. Rucois avait transformé en cabinet de travail la salle à manger et sa chambre, dont la porte restait toujours ouverte. Dans ce ménage, où sa femme et sa fille lui obéissaient avec empressement, il régnait en despote. Optimiste enragé, il ne sentait pas, dans la ferveur de son travail, peser sur ses épaules le nombre des années. Pour le laisser travailler en paix, les deux femmes se tenaient au fond de l'appartement, dans la chambre de Madame Rucquois. Lorsque Gustave sonna, Jeanne apportait à son père un bol de lait. Dès le coup de sonnette, elle ouvrit. Et ce fut avec ravissement que Gustave trouva devant lui le visage frais d'une jeune fille brune, plus grande qu'Amélie, et qui lui souriait. Sans embarras, le bol à la main, elle le conduisit jusqu'à son père. Celui-ci, reconnaissant aussitôt le jeune homme rencontré tout à l'heure, l'invita sans façon à s'asseoir en face de lui, contre la grande table qui était recouverte de papier. « Alors, vous avez eu confiance ?» dit-il de sa voix grasseyante, qui roulait comme un galet dans sa bouche rieuse. « Certes, monsieur. Et votre député ? Il est absent de chez lui. Ils sont toujours absents, ces farceurs, quand ils n'ont plus besoin de leurs électeurs. Enfin, voilà. J'ai quelque chose à vous offrir. Vous pourriez me servir de secrétaire. » Volontiers. Il s'agit de prendre des notes à la nationale et puis de faire ici des copies. Seulement, je ne suis pas riche. Où habitez-vous? Au quartier latin. Diable, c'est au bout du monde. Il faudra chercher une chambre dans mon quartier qui est le plus sain de Paris et le plus sûr. Vous déjeunerez et dînerez avec nous en famille et je vous donnerai 100 francs par mois. « Est-ce que ça vous convient ?»« Oui, monsieur, je vous remercie de votre accueil envers un jeune homme qu'après tout vous ne connaissez pas. On est si froid à Paris. »« Je ne suis pas parisien, moi, je suis un citoyen du monde. Alors, quand commençons-nous »« Demain ?»« Non, d'abord, cherchez une chambre par ici. Écoutez. » Et M. Rucquois se mit à parler, grave, frappant de ses mains blanches le tapis de la table, fixant ses yeux bleus sur Gustave, avec un plaisir glorieux de provoquer chez un être humain, qui devenait en quelque sorte son disciple, un émoi d'admiration. Tout à coup, il interrompit son discours et, gaiement, ouvrit la fenêtre. « Venez voir !» Ils montèrent sur le balcon, tout feutré de poussière, et regardèrent un moment le ciel gris, le troupeau de nuages qui s'en allait à droite, vers le bois. À quelques fenêtres du voisinage, les rideaux s'écartaient légèrement et des femmes souriaient, moqueuses. C'est que, dans ce faubourg aussi cancanier qu'un village de province, on connaissait l'humeur fantasque de M. Rucquois. Brusquement, il frappa Gustave au bras et lui dit « Venez, je vous présenterai à ma famille. » Il entraîna au fond de l'appartement, dans une chambre exiguë. Là, auprès de la fenêtre donnant sur la cour, Madame Rucquois et sa fille brodaient une douzaine de serviettes. Madame Rucquois, massive et rougeaude, ayant un nœud de velours noir sur des cheveux à coque qui grisonnaient, une guimpe blanche sur ses épaules, ne se dérangea point. Sa fille, fine et jolie, s'empressa de le saluer gentiment. « Victoria, je te présente M. Gustave Mourez dont je t'ai parlé, » annonça le maître. « Il consent à me servir de secrétaire. »« Soyez le bienvenu, monsieur, » dit Madame Rucquois à Gustave qui s'inclinait. « Je souhaite que vous aidiez mon mari dans sa besogne si fatigante. »« Et toi, Jeanne, tu auras un convive de plus à soigner. »« Avec plaisir, mon père, » répondit Jeanne. Elle appuya sur le jeune homme ses regards clairs et tendres, en frissonnant d'une sympathie à la pensée d'un inconnu très doux qu'il lui apportait peut-être. M. Rucquois reconduisit Gustave dans le couloir en lui disant « Alors revenez ici, aussitôt que possible. »« Oui, monsieur, en attendant, je vous remercie de nouveau. »« Non, non, vous me remercierez plus tard. » M. Rucquois ouvrit la porte et, pressant les mains de Gustave, il le congédia pressement. Gustave descendit à la hâte, oubliant dans sa joie qu'il avait observé de temps à autre chez M. Rucquois des accès d'égoïsme, de souveraineté impérieuse. Il se mit tout de suite à la recherche d'un logis. Il trouva, par miracle, rue Guillaume Tell, dans un ménage d'ouvriers cossus, dont le mari s'en allait chaque matin, rue Royale, travailler chez un bijoutier, tandis que sa femme confectionnait des gilets pour la grande maison. Il trouva une chambre lumineuse, calme, donnant sur les jardins. Le surlendemain, lorsqu'il se fut installé dans le quartier Pereire, il monta chez son maître, rue Merlin. Dans l'escalier, il croisa Mademoiselle Jeanne qui, légère, un mantelet de drap marron sur les épaules, un boa blanc au cou, un chapeau noir penché vers l'oreille, offrait dans la simplicité de sa mise et la fraîcheur de sa beauté un air de hardiesse naïve et souriante. Elle s'arrêta vivement, le dos au mur. Ce fut Gustave qui se troubla. « Bonjour, mademoiselle. Monsieur Rucquois m'attend, n'est-ce pas ?»«
Sans doute. Montez. »
Gustave sonna chez maître Rucquois avec timidité. Madame Rucquois vint lui ouvrir, mais si coquette encore que, mal coiffée, la gorge ballant dans une camisole sans corset, elle s'esquiva d'un trot en accompagnant son bonjour d'un éclat de rire. Dans la salle à manger, devant une petite glace qui était suspendue à la porte de sa chambre, M. Rucquois achevait sa toilette. En pantoufles et bras de chemise, il taillait à coups de ciseaux ses longs ciseaux de bibliomane, et de quelle façon maladroite, les poils roux de sa barbe ébouriffée. « Une minute, jeune homme, je suis à vous. » Ayant bientôt enfilé sa jaquette, il enseigna à Gustave la besogne qu'il lui faudrait exécuter chaque matin à la première heure. Vider le cendrier du poêle, aller à la cuisine remplir le seau de charbon, ensuite mettre un peu d'ordre parmi les cahiers et les livres sur la table que recouvrait un tapis des Indes, relique admirable de l'opulence d'autrefois. Gustave demeura un moment ahuri, mais puisqu'il devait, ma foi, gagner sa vie chez un original où tout se passait à la bonne franquette et en dehors des usages comme dans un roman, il s'en fut à la cuisine remplir le seau de charbon et il revint le vider dans le poêle. Après quoi, le maître frappa gaiement dans ses mains et commanda « Mettez-vous là, en face de moi !» Gustave prit une rame de papier et, le porte-plume entre les doigts, il ne bougea plus. « J'écris aussi mal qu'un chat, mon garçon. Vous copierez de votre plus belle écriture le gribouillage que j'ai pondu hier et vous aurez la bonté de corriger les quelques fautes que j'ai pu commettre. » Gustave recopia lentement avec une application extrême. L'historien Rucquois avait eu l'idée d'entreprendre l'histoire de France depuis les limbes du monde où le sol futur de la Gaule n'était qu'une épave de rocs et de forêts flottant dans l'eau des marécages autour du massif central. Cette couleur de légende intéressa Gustave, qui se plaisait à toutes les aventures de l'imagination. M. Rucquois s'agitait de temps à autre pour surveiller le poêle, ou bien il s'allongeait à demi sur la table pour consulter ses vieux livres étalés. Un silence religieux régnait, ainsi qu'en un bocage, dans la vaste pièce aux blancs rideaux inondés de lumière. Parfois, on entendait de menues rumeurs dans la cuisine. Gustave songeait alors, d'une âme étonnée et heureuse, à sa maison de marraine. À midi, Jeanne vint disposer le couvert. À table, elle s'assit à côté de son père. Gustave s'assit en face d'elle, à côté de Madame Rucquois. On ne se gêna point pour parler devant lui des choses simples de l'intimité, d'économies à réaliser, de linge à raccommoder. Même, on se querella un peu à propos du concierge que M. Rucquois ne trouvait pas assez poli. Gustave remarqua, non sans appréhension, chez le maître, sous sa bonhomie réelle, une susceptibilité ombrageuse qu'il fallait beaucoup ménager. Il observait également la vigilance de sa fille Jeanne quand elle offrait au maître un plat ou qu'elle lui versait du vin. Jeanne avait, comme d'habitude, retroussé jusqu'au-dessus des poignets les manches de son corsage. Et Gustave épiait à l'improviste, malgré lui, ses bras vigoureux au fin duvet, puis le peigne d'écaille qui retenait le buisson épais de ses cheveux noirs. Pendant le dessert, quand il vit M. Rucquois quitter sa place, la serviette en main, pour s'occuper du café, il lui proposa son aide. Mais M. Rucquois le rabroua en disant « Non, restez près de ma femme qui ne bouge jamais. Moi, je suis un maniaque. » Bientôt, il regagna sa place à table. Le café était prêt. Jeanne servit tout le monde, d'abord son père, qui, ayant allumé un petit cigare, disait « Vous pouvez fumer, Gustave. » Gustave, émerveillé par tant de bonté familière, alluma une cigarette. Tandis que M. Rucquois, les pommettes ardentes, regardait s'envoler aux rayons de soleil les tourbillons de sa fumée bleue, Madame Rucquois savourait son café par petites cuillerées gourmandes. Ensuite, sans dire un mot, elle s'éloigna. Et Jeanne emporta les tasses vides, débarrassa la table. Brusquement, M. Rucoy chercha, sur l'étage supérieur d'une bibliothèque qui s'élevait dans un coin de la salle, ses cahiers et ses livres. Gustave s'empressa de les ranger dans le même ordre que le matin, sur la table recouverte de son tapis. Ils se remirent à leur travail, que le maître entrecoupait de bavardages. Le soir, on servit, évidemment par économie, mais sous le prétexte d'une bonne hygiène, un dîner presque frugal. Lorsque M. Rucoy, pour sommeiller un peu, se fut installé dans un fauteuil, Gustave prit congé. Jeanne, du fond de la cuisine, lui souhaita le revoir. Madame Rucoy, qui affectait une politesse obséquieuse, le reconduisit jusque sur le palier, en souriant, de sa bouche pareille à une poire humide et ronde, entre ses bajoux écarlates.